Et à 6h, le journal vous est présenté par Romane Auquet. Bonjour Romane.
Bonjour à tous. Emmanuel Macron repart en campagne. Le chef de l'État dans la Creuse aujourd'hui, puis la Haute-Vienne demain. Deux jours pour parler zone blanche, déserts médicaux et agriculture. Le président, toujours pas officiellement candidat, qui comptabilise déjà les promesses de parrainage. 500 minimum pour rester dans la course. Une formalité pour le chef de l'État. La collecte démarre officiellement cette semaine auprès des députés, conseillers régionaux et des maires. Dans le Var, un élu laisse le choix à ses habitants. Ils décideront eux-mêmes du parrainage de leur maire. Premier tour du scrutin dès le week-end prochain. Le reportage de notre correspondant Frédéric Michel.
En tant que maire, vous avez déjà une vision de la chose.
Dans les rues du village ou en mairie, Olivier Hoffmann n'hésite pas à expliquer sa démarche aux administrés venus le rencontrer. Et chaque foyer a reçu un prospectus pour annoncer la consultation.
Le but de la démarche, c'est de ne pas m'exprimer en nom propre. Donc moi, je serai le relais de la population.
Je pense que c'est une bonne démarche.
Dans ce village de 2000 âmes, au cœur de la Provence verte, l'idée séduit.
Ça demande l'avis à tous les habitants de Sazy-sur-Isole. C'est participatif, c'est démocratique.
C'est important que ça ne soit pas le choix que du maire, quoi. C'est le choix de tout le monde.
De toute façon, c'est un maire sans étiquette, donc c'est normal qu'il se sente pas la responsabilité d'avoir tout sur le dos, lui.
On compte aussi, donc pour nous c'est très positif.
Seules les personnes inscrites sur les listes électorales de la commune pourront voter.
La liste de tous les candidats sera affichée à l'entrée de la salle de vote. Les candidats déclarés et ceux en passe de l'être. La démocratie donne l'opportunité aux communes de pouvoir s'exprimer, donc il faut le faire. Et la seule façon de le faire sans s'engager politiquement, c'était de le faire vis-à-vis d'une consultation citoyenne. Ça nous a semblé le moyen le plus simple à notre échelle de réaliser ce parrainage.
Le maire affirme qu'il respectera le vote si au moins 400 personnes se déplacent, soit un quart des électeurs. À défaut, le dépouillement n'aura pas lieu et aucun parrainage attribué.
Le reportage de Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. L'autre scrutin prévu le week-end prochain, c'est celui de la primaire populaire de la gauche qui comptabilise près de 467 000 inscriptions. C'est 4 fois plus que pour le congrès LR ou la primaire écologiste à l'automne.
Vous avez plus de 16 ans et vous n'êtes pas vacciné. Le quotidien va sérieusement se compliquer avec l'entrée en vigueur ce matin du pass vaccinal. Ce nouveau QR code est généré automatiquement sur l'application Tous Anti-Covid.
360 000 nouveaux cas de Covid en moyenne chaque jour. Grâce à Omicron, la fin de l'épidémie en Europe est plausible, avance l'OMS. C'est sans compter en tout cas la présence d'un nouveau variant BA2 détecté au Royaume-Uni, au Danemark et même en France. Pour Olivier Véran, cela ne change pas la donne. Les épidémiologistes, eux, optent pour la prudence. Yasmina Katou.
C'est un petit variant qui reste encore mystérieux. Le sous-variant d'Omicron, BA2, est apparu au mois de décembre, presque en même temps que la souche originelle. Il s'est répandu rapidement en Inde, aux Philippines et plus proche de chez nous, au Danemark. Chez les Danois, BA2 serait devenu le variant majoritaire, ce qui pourrait être préoccupant, explique Antoine Flahaut, épidémiologiste.
Ce sous-variant semble particulièrement contagieux. Il est vrai qu'autour du 15 janvier, on s'attendait à un pic épidémique au Danemark. Et ce pic semble retardé. La question vraiment qui se pose est de savoir s'il n'est pas à l'origine de cette remontée des contaminations au Danemark.
En France, on sait que BA2 est chez nous, mais reste difficile à tracer. D'abord parce que les séquençages sont moins nombreux. Ensuite, parce que faire la différence entre Omicron et celui que l'on surnomme Omicron furtif demande plus de temps d'analyse. BA2 est-il plus dangereux? Résiste-t-il au vaccin comme Omicron? Il est encore trop tôt pour le dire. Le ministère de la Santé va suivre de près les analyses qui seront produites par le Danemark.
Yasmina Katou.
Il y a 10 jours des Jeux d'hiver de Pékin, le variant qui inquiète la Chine, c'est bien Omicron. Les autorités de la capitale chinoise ont annoncé hier le dépistage de 2 millions d'habitants après la découverte d'un foyer épidémique.
Et pour limiter les contacts, le pays a trouvé une parade avec le développement des restaurants automatiques intelligents dans une centaine d'établissements. Ce sont tout simplement des robots qui préparent les plats et assurent ensuite le service. Le reportage de notre correspondant à Pékin, Sébastien Le Belzic.
On se croirait dans un vaisseau spatial avec ses lumières bleutées, son réseau de rails et de tuyaux dans lequel circulent les plats et son armée de petits robots blancs chargés de plateaux et montés d'un écran clignotant. Ici, tout est automatisé, explique le patron Wang Jin.
Il y a plusieurs systèmes. Les plats volumineux comme les steaks et les hamburgers sont apportés par des robots et les autres sont envoyés par ce système de rails automatique et arrivent pile devant le client.
Seuls quelques serveurs humains, ceux-là, sont en poste pour répondre aux questions des clients. Mais l'objectif, c'est d'éviter autant que possible les contacts et donc les risques de tomber malade. Cette jeune Pékinoise est adepte de ces nouveaux restaurants.
On sort beaucoup moins qu'avant avec l'épidémie. Mais ce type de restaurant, je trouve que c'est amusant. C'est plus hygiénique, c'est bien mieux comme ça, il n'y a pas de risque.
On trouve de plus en plus de ces androïdes dans les restaurants chinois, moins cher qu'un serveur, plus efficace et jamais malade. Le système est si bien rodé que les repas des athlètes pendant les Jeux Olympiques de Pékin Pékin seront aussi préparés et livrés par des machines. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1.
6h passées de 5 minutes sur Europe 1. On revient en France avec une femme à la tête d'Orange. La nomination devrait être actée cette semaine lors d'un conseil d'administration prévu vendredi.
Christelle Heydemann, voilà celle qui devrait succéder à Stéphane Richard. L'ancien patron a présenté sa démission en novembre. Cette polytechnicienne de 47 ans fait partie des favoris avec déjà un soutien crucial, celui de l'État, premier actionnaire de l'opérateur historique, Aurélien Fleureau.
Il ne reste plus que quelques détails à affiner et la nomination de Christelle Heydemann sera officialisée. L'actuelle vice-présidente Europe de Schneider Electric, 47 ans, faisait partie de la liste établie par un cabinet de chasseurs de tête à la demande du conseil d'administration d'Orange. Stéphane Richard avait même soufflé son nom bien avant sa condamnation en appel dans l'affaire Tapie Crédit Lyonnais le 24 novembre dernier. Mais l'appui décisif en faveur de cette polytechnicienne qui a passé 15 ans chez Alcatel a été celui de l'État, premier actionnaire d'Orange à hauteur de 23%. Malgré des frictions au sein du conseil d'administration, notamment à cause de cette intervention de Bercy et de l'Elysée, l'arrivée de Christelle Heydemann semble accueillie positivement en interne. Elle coche beaucoup de cases, me disait un cadre haut placé. Elle a notamment occupé un poste de directrice des ressources humaines. Le social, un sujet toujours ultra sensible chez Orange, d'autant plus que parmi ses premiers chantiers, il y aura celui de la masse salariale de l'opérateur télécom et de son évolution vers de nouveaux métiers.
Aurélien Fleureau. Vous aurez reconnu le tube forcément Vogue de Madonna, la chanteuse dont les corsets étaient signés Thierry Mugler. Le couturier est mort cette nuit à 73 ans. Le créateur français salué d'ailleurs par Beyoncé et Diana Ross. Des épaules accentuées, des décolletés plongeants, c'était le style de la femme Mugler, incontournable dans les années 80. Une exposition lui est d'ailleurs consacrée en ce moment au musée des arts décoratifs à Paris.
C'est noté, merci beaucoup Romain Hoquet pour toutes ces informations.